Maintenant, quelque chose de très très important, la parole de Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 1. Nous reprenons notre découverte de Jésus il y a 2 semaines, si vous vous souvenez. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas si vous ne vous en souvenez pas. Alors, il y a 2 semaines, nous avons examiné les 4 premiers versets de cet évangile. Nous avons entamé cette découverte de Jésus. Et vous allez peut-être dire, mais Jésus, je sais qui c'est, quand même. La plupart d'entre nous, ça fait des années que nous sommes sauvés, ça fait des années que nous allons à l'église, ça fait des années que nous entendons la parole. Jésus, ce n'est pas un inconnu. Et pourtant, lorsque nous reprenons notamment l'évangile de Jean, il y a encore des choses à apprendre. N'est-ce pas? Jésus, on n'a pas fini de le découvrir. Et c'est ce que nous allons essayer de faire à travers cette étude qui nous prendra un certain temps, mais nous allons examiner toute cet évangile, toute cette bonne nouvelle à la découverte de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au verset 5 jusqu'au verset 14. Et j'aimerais dès le départ vous mettre 2 mots dans votre esprit. Et les 2 commencent avec R. Parce que j'allais faire une blague, je ne vais pas la faire parce que on est censé être sérieux. 2 mots qui commencent avec R. Premier mot, c'est réception, okay, recevoir. Deuxième mot, c'est rejet. Alors, vous allez comprendre à travers ces versets pourquoi ces 2 mots. Mais d'un côté, recevoir, réception. De l'autre côté, rejet. On rejette ou on reçoit. Suivez avec moi alors que je lis ces versets, l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir de verset 5 jusqu'au verset 14. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci que tu ne nous as pas laissés dans le doute, dans l'incertitude, dans les ténèbres, mais tu nous apportes la lumière à travers ta parole et nous implorons ton aide pour pouvoir comprendre cette parole, pour pouvoir la mettre en pratique. Et Seigneur, quand tu l'auras fait, que tu puisses recevoir la gloire parce que ce sera évident que c'est toi qui l'as fait. En ton nom. Amen. Vous l'avez bien compris, j'espère, à travers ces quelques versets, pourquoi nous parlons de rejet et de réception, de recevoir. Parce que Jésus, en venant dans le monde, eh ben, il partage. Jésus divise. Il faut comprendre, bien sûr. Jésus, il rassemble autour de lui tous ceux qui croient en lui. Mais finalement, il divise parce qu'il y a des gens qui ne le reçoivent pas. Et cela est tellement triste. Mais c'est ce qui est annoncé ici dans ces versets. Et le but de Jean est d'écrire ici, c'est bien sûr qu'on reçoive Jésus. Il y a 2 semaines, nous avons parlé de se tourner vers Jésus. Si vous vous souvenez, et voilà pourquoi il était digne que nous nous tournions vers lui. Mais aujourd'hui, Jean, à travers ces versets, il va attirer notre attention sur le fait que bah, non seulement il faut se tourner vers Jésus, il faut regarder dans la bonne direction, mais aussi il faut le recevoir. Et qu'il y a des gens qui vont recevoir, gloire à Dieu, mais il y a aussi des gens qui vont rejeter. Et lorsque nous revenons au verset 5, Jean, il avait commencé en parlant de la parole, il a aussi commencé à parler de la lumière, de la vie, et il continue cela au verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres. Alors, on se pose la question, mais des ténèbres physiques ou spirituelles? Et lorsque nous lisons le passage, lorsque nous comprenons le contexte, on comprend que bah, ce sont des ténèbres spirituelles. Parce que nous sommes, selon la Bible, tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, ces personnes sont dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et Paul, lui, il va aller un peu plus loin quand il va écrire plus tard aux Corinthiens. Et vous le savez peut-être, mais pour rappel, Paul va dire que Satan est en ce moment activement en train d'aveugler les yeux spirituels des inconvertis afin qu'ils ne croient pas en Jésus, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de Jésus-Christ. Et Jean, ici, déjà, il annonce que Jésus, qui est la lumière, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas de question là-dessus, la lumière, la vie, la parole dans ces versets, c'est bien Jésus-Christ. Et il est venu dans un monde de ténèbres. Et aujourd'hui, je suis convaincu, plus que jamais, les enfants de Dieu ont besoin de dire cela. Pourquoi ? Parce que notre société est devenue telle que nous voulons dire que tout va bien, que finalement l'homme, il est bon, ça lui arrive de faire de mauvaises choses de temps en temps, mais au fond de lui, l'homme, il est bon. L'humanité, elle est pas si mauvaise que ça, ça lui arrive de faire des choses méchantes, et il y a des gens plus méchants que nous, mais voilà, on est tous plus ou moins bien, avec quelques points tordus de temps en temps. Et la Bible dit non, non. Ce monde, il est dans les ténèbres. Et c'est dans ce monde que Jésus est venu. Et Jésus n'est pas venu apporter une petite bougie, une petite lampe pour éclairer un peu. Non, il est venu apporter le plus grand phare qui puisse exister. Il est venu éclairer dans ces ténèbres. Et nous voyons la lumière. Lui brille, resplendit dans ces ténèbres. Et la triste fin de ce verset 5, les ténèbres ne l'ont point reçu. Quelle tristesse! Je ne sais pas vous, mais si je me trouvais au fin fond d'une forêt, la nuit, tout est noir, la lune, ben, on ne la voit pas, je ne vois même pas ma main devant mon visage, et qu'au loin, j'aperçois une petite lumière. Bah, croyez-moi, je vais courir. Enfin, je vais m'avancer le plus rapidement possible, sans me faire de mal. Je vais m'avancer le plus rapidement possible vers cette lumière, n'est-ce pas? Il serait tellement illogique de dire, « Ah oui, là, la lumière, quelque chose qui peut m'éclairer, quelque chose qui peut m'aider. » Et là, je tourne et je vais dans le sens opposé. Tellement illogique, n'est-ce pas? Qui ferait cela? Et Jean dit, c'est tellement illogique. Et pourtant, c'est vrai. C'est triste. La lumière est venue. Jésus est venu. Et qu'est-ce que les gens, ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Ne l'ont point reçu. Et nous critiquons les gens de l'époque de Jésus. Ils avaient toutes les prophéties. Les Juifs, ils avaient l'Ancien Testament, ils le lisaient toutes les semaines dans la synagogue. Les rabbins expliquaient, il y avait une connaissance générale quant au Messie qui devait venir. Et on dit, mais ils n'étaient pas capables à leur époque de pouvoir voir en Jésus celui qui allait délivrer, celui qui apportait cette lumière. Ils ne l'ont point reçu, mais honte à eux. Et ça c'est vrai, il faut les critiquer. On peut, de façon légitime, les critiquer en disant ben, ils auraient dû. Et les gens de notre époque, ceux qui ne croient pas encore, avec tout ce que nous savons, même ici en France, quant à Jésus, les gens, ils connaissent le nom de Jésus. Bon, souvent, ils comprennent mal qui est Jésus, mais au moins, ils connaissent qui c'est. Ce n'est pas un parfait inconnu. Il y a une connaissance générale qu'il y a un Dieu, que voilà, la Bible est là, c'est un livre un peu à part. Mais on dit honte aux gens aujourd'hui qui n'ont pas encore reçu la lumière. Ils n'ont aucune excuse. Et cela est légitime. Mais malheureusement, parce que, gloire à Dieu, si nous avons accepté Christ comme notre Sauveur, nous avons reçu cette lumière, nous pouvons critiquer et nous croire supérieurs à ceux qui n'ont pas encore reçu cette lumière. Et cela n'est pas bien, vous le savez. Si nous avons reçu cette lumière, si nous avons accepté Christ comme notre Sauveur personnel, nous ne sommes pas meilleurs que les autres en nous-mêmes. Si ce n'est que pour la grâce de Dieu, nous serions comme eux. Lorsque nous parlons de ce rejet et de cette réception, ne croyons pas que si nous avons reçu, que cela nous donne le droit de dire « ben, nous sommes les meilleurs ». Nous sommes les meilleurs, oui, mais par Jésus-Christ. Parce que lui, il est le meilleur. Dans ce verset 5, nous voyons qu'il y a un partage. Jésus est venu, il offre la lumière à quiconque. La lumière ne fait pas de distinction, n'est-ce pas? Vous apportez la lumière quelque part et la lumière ne dit pas bah, « je vais éclairer un tel et je ne vais pas éclairer un tel ». Vous apportez dans une pièce sombre, vous allumez, bah, c'est tout le monde qui voit. C'est tout le monde qui est éclairé. Et Jésus, en venant dans le monde, bah, il éclaire tous. Il veut, il s'offre à tous, il veut sauver tous. Mais quel est le verdict de ce verset 5? Les ténèbres, c'est-à-dire les gens inconvertis, ne l'ont point reçu. Et nous savons que c'est le constat aujourd'hui. Combien de nos connaissances, combien même des personnes de notre famille, combien de gens nous croisons dans la rue ont rejeté la lumière de Dieu. La plupart, n'est-ce pas? La plupart. La preuve, c'est que la salle aujourd'hui, bah, elle n'est pas aussi remplie qu'elle pourrait être. Malgré les absences de quelques-uns, bah, il y a encore de la place ici. Si plus accepter Jésus-Christ comme leur sauveur, cette salle serait remplie. Il nous faudrait un autre bâtiment. Quel problème formidable ce serait! Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Et si on se tenait à ce simple verset, la lumière, elle est venue. Bah, gloire à Dieu, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Quelle tristesse! Ça pourrait presque nous pousser au découragement. Mais la lumière, elle est venue, et même à son époque, on l'a refusée. Bah, quelle espérance pouvons-nous avoir? Et pourtant, au lieu de nous pousser au découragement, ceci devrait nous pousser à davantage de témoignage, comme nous voyons dans ces versets qui suivent. Verset 6, regardez. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu, avec une mission spéciale. Son nom était Jean. Alors, juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, le Jean dont il est question ici n'est pas l'auteur de cet évangile. Il y a eu au moins 4, je crois, Jean dans le Nouveau Testament. 4 gens différents, donc ce n'est pas le même personnage, et pourtant il s'appelle Jean. J'ai l'impression que le nom Jean, à l'époque, c'était un peu comme Robert aujourd'hui. Okay? Il y a des Robert partout. Okay? Il y avait des gens partout. Okay? Et ici, Jean, c'est bien Jean-Baptiste dont il est question. Jean-Baptiste n'est pas l'auteur de l'évangile qui porte le nom Jean ici. Okay? Donc c'est bien deux personnes distinctes. Et Jean-Baptiste envoyé par Dieu. Et là, je me dis, quelle note d'espérance. Dieu n'envoie jamais personne avec une mission inutile. Dieu ne dit pas, je vous envoie, mais finalement, votre mission, elle ne vaut pas grand-chose. Non, non, non. Quand Dieu envoie, c'est dans un but spécifique et même de réussir. Et ici, Jean-Baptiste, il était envoyé par Dieu. Et quelle était sa mission? Verset 7 nous l'apprend. Il vint pour servir de témoin. Témoin. Lumière. Jean, ici, va continuer cette idée de lumière pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Le but de Jean-Baptiste n'était pas simplement d'apporter un ensemble de connaissances aux gens de son époque. Son but était de montrer que par la foi en cette personne de Jésus, on pouvait accéder à la vie éternelle. Et nous pouvons constater à la fin de verset 7, « afin que tous croient par lui ». Par qui? En fait, c'est Jean-Baptiste. Croire, non pas en Jean-Baptiste, ça ne servirait à rien, mais croire en Jésus par le témoignage de Jean-Baptiste. Et nous avons aujourd'hui le même privilège. Nous annonçons la parole, Jésus-Christ. Nous annonçons la lumière, Jésus-Christ. Nous annonçons la vie, Jésus-Christ, afin que les gens croient non pas en ce que nous disons, mais croient par nous en Jésus-Christ. Nous le savons. Et c'est ce que nous devons faire tous les jours de notre vie. Nous pouvons malheureusement être tellement occupés à droite et à gauche que nous oublions que nous sommes là pour rendre témoignage. Et nous pouvons croire que finalement nous sommes quelque chose, et le verset 8 nous apprend que non, finalement. Verset 8, il n'était pas la lumière, donc parlons de Jean-Baptiste. Il n'était pas cette lumière, non, 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 mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas au centre. Tout ne démarrait pas avec lui, non, c'était Jésus. Et verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et qu'est-ce que j'apprécie ce verset 9? Pourquoi? Parce que ce verset 9 montre que le salut est accessible à tous. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'accessibilité, rendre les choses accessibles pour les handicapés, pour être inclusif, essayer d'inclure tout le monde. Et cela est bien, il faut. Il y a eu de la discrimination dans le passé. Il y a sûrement encore aujourd'hui. Veille que la discrimination ne se trouve jamais parmi les chrétiens. Mais il y a eu par moments de la discrimination. Et ce verset 9 nous montre que Dieu ne fait pas de discrimination. Non, la lumière qui arrive, Jésus, il est venu pour tous. La lumière éclaire tout homme. Et lorsque je lis ce verset, qu'est-ce que je me réjouis en Dieu, que Dieu a trouvé bon de vouloir sauver quiconque. Parce que si moi j'étais à la place de Dieu, moi, je ferais de la discrimination. Moi, je dirais, un tel ou tel, il a tué. Un tel ou tel, il a fait tel ou tel péché tant de fois que là, on voit qu'il n'est vraiment pas sincère, alors lui, je ne le sauve pas. Ou elle, ou tel groupe, pour différentes raisons, ne mérite pas le salut. Si moi j'étais à la place de Dieu, et vous aussi, on ferait de la discrimination. Mais Dieu, lui, n'en fait pas. Et heureusement, parce que si jamais Dieu faisait de la discrimination, tout le monde serait exclu. Parce qu'il dit, soyez parfaits. Soyez parfaits. comme on n'est pas parfait, Dieu serait obligé de nous écarter si jamais il faisait de la discrimination, mais il ne le fait pas. Cette lumière, Jésus-Christ, venant dans le monde, il éclaire tout homme. Et là, mes sœurs, les dames, vous êtes incluses là-dedans, parce que là, l'humanité, on ne parle pas juste du genre masculin, mais là, on parle de l'humanité, éclaire tous. Et autant je me réjouis avec ce verset 9, le verset 10, malheureusement, me fait revenir un peu dans un état de tristesse, parce que, regardez verset 10, « Elle était dans le monde. » Gloire à Dieu, Jésus est venu dans le monde. Le monde a été fait par elle. Et quel est le verdict à la fin de verset 10 ? Le monde ne l'a point connue. Et là, c'est peut-être un des versets les plus perplexes de toute la Bible. Et on comprend encore aujourd'hui, moi, je me dis, comment est-ce possible que des personnes peuvent regarder la nature, l'univers, et nier qu'il y ait un Dieu ? Dire, non, quelques atomes, quelque part, dans l'univers, dans un passé très très lointain, ont explosé et toute la vie est venue de là. Non mais, il est venu dans le monde. Ce monde a été créé par lui. Là, Jean, il renvoie au verset 1 et 2. Et le monde ne l'a point connu. Quelle tristesse. Paul, dans Romains chapitre 1, il va dire, ils veulent ignorer. Ils ne veulent pas savoir. Non. Ils rejettent Dieu, alors ils doivent créer des théories complètement absurdes. C'est vraiment absurde, la théorie de l'évolution, quand on y pense. Mais on est obligé d'aller dans ça si on rejette Dieu. Le monde ne l'a point connu. Et pire que ça, verset 11, elle est venue chez les siens. Jésus est venu premièrement vers les Juifs. De tous les peuples de la terre, les plus bénis, qui a bénéficié de l'intervention directe de Dieu pendant littéralement des siècles, des centaines d'années, les Juifs avaient bénéficié de l'intervention directe de Dieu dans leur vie. Jésus est venu chez les siens, chez les Juifs, et les siens ne l'ont point reçu. On pourrait comprendre que les non-juifs, peut-être qui manquaient de connaissances de l'Ancien Testament, qui n'avaient pas reçu tout ce que les juifs avaient reçu, que eux, ils ignorent qui est Jésus, que eux, ils ignorent toutes les promesses, toutes les prophéties, ok, on admet, plus ou moins, mais que les juifs, avec les textes que Dieu leur a donnés, avec tout ce qu'ils savaient de Dieu et de ce que Dieu allait faire pour eux, qu'eux, ils passent à côté, totalement incompréhensible. Et pourtant, ils l'ont fait. Ce verset 11, « Les siens ne l'ont point reçu. » Et cela est vrai aujourd'hui. C'est triste, mais aujourd'hui, des personnes avec un grand savoir, avec peut-être beaucoup d'expérience, qui n'ont aucune excuse de ne pas être sauvés, et pourtant qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur sauveur. Cela est triste, et cela doit nous pousser à beaucoup de prières, cela doit nous pousser à plus de zèle, de témoigner envers ces personnes. Parce que ces personnes doivent recevoir. Il n'y a que deux choix, rejeter ou recevoir. Ce passage présente les deux choix. Et si on ne fait pas l'un, obligatoirement on a fait l'autre. Jusque-là, nous voyons un rejet. Ils n'ont pas reçu. Tous ceux qui auraient dû, de toutes les personnes sur la terre à ce moment-là, eux, ces personnes auraient dû, les Juifs auraient dû recevoir, mais ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, nous connaissons des gens qui, de toutes les personnes de la terre, devraient recevoir. Et pourtant, jusque-là, ils ne l'ont pas fait. Et je loue Dieu que ce chapitre ne s'arrête pas là. que ce paragraphe ne s'arrête pas là, parce qu'il y a le grand « mais ». Qu'est-ce que j'aime bien ce verset dans la Bible? Parce que là, on sait que Dieu va intervenir. Mais, jusque-là, on a vu le rejet. Ils n'ont point reçu, ils n'ont pas reçu. Mais à tous ceux, encore une fois, aucune discrimination, aucun choix, en disant peut-être oui, mais peut-être non. Non, à tous ceux qui l'ont reçu. Alors là, ça change. Les autres, ils n'ont pas reçu. Mais si on reçoit, si on accepte, et qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ben, Jean nous le dit. À ceux qui croient en son nom, cette foi, déjà au verset 7, afin que tous croient par lui, cette foi en son nom, au nom de Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, on voit que tout change. Tout change. Avant, chacun de nous, nous avons rejeté Dieu. À un moment donné, nous avons rejeté Dieu. Depuis notre naissance, nous rejetons Dieu. Tout être humain, à partir de sa naissance, il rejette Dieu. Et de par ce fait, il est un pécheur voué à la condamnation éternelle. Mais ici, ce verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui croient en Jésus pour le salut, Dieu a donné le pouvoir de devenir son enfant. Et je lis ce verset, il est tellement bien connu, mais il me bouleverse. Dieu prend des personnes qui jusque-là l'ont rejeté complètement, qui ne voulaient rien savoir sur lui. Paul, lui, quand il va écrire aux Romains, va dire « Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il va dire aux Éphésiens « Nous étions ses ennemis, nous étions loin de lui. » Et maintenant, si nous recevons Jésus-Christ, c'est-à-dire si nous croyons en lui, il nous donne la capacité, c'est là le pouvoir, la possibilité de devenir enfant de Dieu. Il nous fait entrer dans sa famille. C'est pas juste, il nous approche un peu, mais voilà, il nous fait partie, il nous fait devenir partie de sa famille. Et c'est là où on se dit, il n'y a que Dieu pour faire ça. Moi, à la place de Dieu, jamais, jamais, aucun de nous ferait cela. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et encore une fois, cette séparation qui est là. Soit on rejette, et on l'a rejeté depuis la naissance, pendant toute sa vie, jusqu'au moment où on reçoit. Et à ce moment-là, on passe, comme Paul va dire, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Du camp de Satan au camp de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. On n'est pas en train de parler d'une naissance physique, comme dans deux chapitres, au chapitre 3, Jésus va l'expliquer à Nicodème. Non, ça ne vient pas de nous, c'est la volonté de Dieu qui est là. Et lorsque nous voyons cela, nous devons nous poser la question, quel choix ai-je fait? Par défaut, la position automatique, c'est rejet de Dieu. Chacun naît comme cela. Mais est-ce que un jour, j'ai pris la décision de recevoir Jésus? Moi, je l'ai fait. L'avez-vous fait? Je prie que oui, connaissant la vie de la plupart. Ici, je sais que, et j'ai la confiance que la plupart l'ont fait. Ce passage nous montre que ce choix, il doit être fait. Soit on rejette, soit on reçoit. Mais au-delà de cela, puisque ceci n'affecte pas que nous. Ce passage, il est pour tous. Et si nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, gloire à Dieu. Amen. Réjouissons-nous de cela. Mais maintenant, tout comme Jean, tout comme la suite de ce passage, il faut qu'il y ait un témoignage. Aujourd'hui, les gens doivent entendre qu'ils sont loin de Dieu, même s'ils ne veulent pas entendre. Ils doivent entendre qu'ils sont pécheurs. Aïe, aïe, aïe. Alors là, ça passe mal, n'est-ce pas? On va nous traiter d'intolérants. Ah non, on est biblique. Les gens doivent entendre qu'ils sont loin de Dieu, qu'ils vont passer l'éternité dans un lieu de tourment, de souffrance, de condamnation, s'ils n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur sauveur. Et c'est ça qui change tout. Si Jésus-Christ n'était pas venu, aucune espérance. Si Jésus-Christ n'était pas venu, il n'y aurait que la mauvaise nouvelle que nous sommes tous condamnés à la mort spirituelle, à passer l'éternité loin de Dieu. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu. Et sa venue au verset 14, la parole, de nouveau un renvoi vers le verset 1, a été faite chair. Elle a habité parmi nous, c'est-à-dire elle a fait son domicile. C'est le mot, elle a mis sa tente, c'est habiter, tabernacler, c'est le mot pour tabernacle, avoir sa demeure parmi nous. La parole, Jésus-Christ n'est pas resté à distance, non, il s'est approché. Et elle, la parole, Jésus-Christ, plein de grâce, de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous n'aurions jamais pu aller vers Dieu, vous le savez. Je ne vous apprends rien, ce n'est pas la grande découverte là. Mais un rappel, nous n'aurions jamais pu arriver vers Dieu. Et les gens autour de nous doivent entendre qu'eux non plus, ils ne pourront jamais aller par eux-mêmes vers Dieu. Ils doivent entendre cela. En ce qui concerne le salut, Dieu n'est pas un Dieu arrangeant. En disant, d'accord, tu as fait tous tes efforts, alors je vais combler un peu le petit qui manque. Non. Nous ne pouvons rien. Et les gens aujourd'hui doivent comprendre, doivent entendre de notre bouche que Dieu est un Dieu qui juge, qui condamne le péché. Et à cause du péché, ils vont passer l'éternité loin de Dieu. Ils doivent. Et les gens aujourd'hui doivent comprendre qu'ils sont en train de rejeter Dieu s'ils sont encore inconvertis. Les gens autour de nous doivent comprendre que ce que Dieu exige, c'est la perfection. Et ils sont loin de ça. Même si eux, ils ne se croient pas aussi mauvais que ça, aux yeux de Dieu, ils sont comme des vêtements souillés. Et il a fallu que Jésus, Dieu lui-même, vienne sur la terre. Et que tant qu'on ne l'a pas reçu, on est dans une mauvaise position. Les gens doivent entendre qu'ils sont condamnés aux yeux de Dieu. Mais en même temps, les gens doivent entendre que le salut est possible. J'espère que dans notre témoignage, nous ne laissons jamais des personnes avec cette idée qu'ils sont condamnés, qu'il n'y a rien à faire. Et si jamais vous témoignez à quelqu'un et que vous leur laissez croire cela, vous avez mal agi. Et moi, j'ai mal agi si jamais j'ai fait ça. Parce que ce n'est que la moitié du message. Les gens, les inconvertis, ont rejeté Dieu et continuent de le rejeter encore aujourd'hui. Mais en même temps, annonçons qu'ils peuvent, ils doivent recevoir Jésus. C'est ça le message que nous devons annoncer. Et cela est tellement important aujourd'hui, parce que avec tous les programmes dans les églises, et je parle même des églises fidèles, avec toutes les méthodes, avec toutes les conférences, toutes les rencontres, tout ce qu'on veut qui est fait dans le monde, on va dire, chrétien évangélique en France, il est possible qu'on passe à côté, même dans notre Église, qu'on passe à côté de cette idée qu'il y a un partage. Et que le message de l'Église n'est pas « améliorons-nous un peu, améliorons notre société ». Non, ça va venir si les gens se convertissent, mais s'ils ne se convertissent pas, c'est voué à l'échec. Et le message de notre Église, c'est que les gens doivent se convertir, ils doivent recevoir Jésus. Et lorsque Jésus, Matthieu chapitre 28, vous connaissez ce verset, il est sur le mont des Oliviers, il va revenir, retourner plus exactement vers son Père, et il va dire à ses disciples, allez par tout le monde, partout où vous êtes, peu importe, quel est le commandement, faites des disciples. Et comment est-ce que les gens ils deviennent disciples? C'est en reconnaissant leurs péchés, reconnaissant qu'ils sont dans les ténèbres et en acceptant la lumière qui vient de Jésus. Si les gens n'ont pas encore fait ça, ils ne sont pas disciples. Et nous devons continuer de leur annoncer ce message. Alors lorsque nous réfléchissons à cette semaine passée, avons-nous confronté quelqu'un avec leur besoin d'accepter la lumière en Jésus-Christ? Y avait-il un moment où, dans une discussion avec un inconverti, nous avons dit, tu as besoin de te convertir, tu as besoin d'accepter Christ comme ton sauveur? Est-ce qu'on a eu cette possibilité? Si oui, gloire à Dieu, continuons. Sinon, nous devons le faire. Jean, il commence son évangile en disant deux choix. Rejeter ou recevoir. Déjà pour nous, qu'est-ce que nous avons fait? Où nous situons-nous? Et puis, quel choix présentons-nous aux autres? Est-ce qu'on laisse les gens dans leur rejet ou est-ce qu'on les appelle à recevoir Christ comme leur sauveur afin de commencer une vie nouvelle? De croissance de vie avec Dieu. C'est à chacun de se remettre en question devant Dieu, de dire, voilà pourquoi je suis là. Jean, il écrit cet évangile dans le but que les gens croient. Si j'ai cru, gloire à Dieu. Maintenant, je transmets cela à d'autres. Donc, nous allons passer quelques instants dans le silence devant Dieu pour nous remettre en question. Demandez à Dieu de nous donner des occasions de partager ce message autour de nous, de ne pas nous tromper d'objectif. Alors passons quelques instants dans le silence, chacun devant Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous savons que rien n'est caché à tes yeux. Tu nous vois tels que nous sommes et nous demandons ton aide parce que nous sommes faibles. Nous nous trompons d'objectifs, parfois, nous passons à côté des occasions d'annoncer la vérité en Jésus-Christ, d'interpeller des personnes autour de nous avec la condamnation qui les attend, avec leur rejet de toi. Pardonne-nous, Seigneur, remplis-nous de ta force, de ton assurance. Nous en avons besoin, nous sommes faibles par nous-mêmes. Nous voulons être tes témoins. Nous voulons annoncer la vie en Jésus-Christ. Nous voulons interpeller les gens pour qu'ils reçoivent Jésus-Christ par la foi. Que tu nous aides à travers cette semaine à venir à saisir toutes les occasions que tu nous donneras. Aide-nous à les voir. Et Seigneur, que nous ayons la joie de pouvoir parler de ces occasions autour de nous, de témoigner de ta puissance dans notre vie. Et Seigneur, que ton nom soit glorifié, parce que c'est toi qui l'auras fait. C'est en ton nom glorieux que nous prions. Amen.